Et un, et deux, et un, deux, trois.
Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro.
Bonsoir et bienvenue pour ce 26e numéro du Cyclocast. Je suis accompagné de mes compères.
Warthog.
Et Grincheux.
Voilà, et moi-même, je suis Prokylus. Voilà, Mogor.
Bonjour Prokylus.
Bonjour les gars. Voilà, donc Mogor nous a abandonnés parce qu'elle a des choses à préparer, voilà. Donc, petit numéro qui va être assez cool parce que beaucoup de choses à faire, beaucoup de dépression hivernale, donc du coup on dort plus. On attaque direct.
On va attaquer direct.
Ouais, allez, les news, c'est parti.
Mais non.
Non, t'as un rétropédalage.
Un rétropédalage.
Alors, j'ai un pseudo rétropédalage sur l'opération de Paris, donc 3 semaines sans ma voiture.
Ouais.
Donc des foufous ont tenu 3 semaines à Paris sans voiture.
C'était Dieu.
Donc il y avait donc la mairie de Paris avait organisé donc en 2016 c'était.
C'était par la mairie, c'était pas une assurance qui organisait ça.
Non, c'était la mairie. En 2016 c'était une semaine sans ma voiture.
Ils ont tenu 3 semaines sans ma voiture, c'est le vrai titre en plus de l'article. Pardon, c'est pas bien de se moquer des gens, c'est moche.
Voilà donc. En 2007, en 2016, c'était 7 jours sans ma voiture.
Après, tu poses des RTT, c'est bon, tu sors plus, t'es
donc,
pas de peine.
Voilà, cette année, c'était donc une cinquantaine d'usagers qui se sont passés de leur voiture ou de leur deux roues motorisées pendant 3 semaines. Donc, bonne nouvelle, 73% des participants sont satisfaits de l'expérience. Donc ça fait beaucoup de, enfin pour beaucoup ça fait un chamboulement du quotidien, mais parfois l'allongement du trajet, ils disent que ça en vaut la peine. Ils prennent comme exemple une des participantes qui habite Boulogne-Billancourt et qui va travailler dans le avenue de la Grande Armée dans le 17e et qui a laissé son scooter pour un vélo, mais comme elle était motivée avant le défi, je me suis entraîné au vélo en salle pour gagner de l'endurance.
Bon. Non mais c'est vrai, moi je m'entraîne à Fressu sur mon canapé pour le jour où j'aurai une bagnole, donc c'est cohérent.
En fait, moi, très honnêtement...
Non, bah on se moque, mais...
Ah bah oui, on se moque.
Ouais, on a quand même la forme, on est d'accord. On a l'habitude, ce que je veux dire.
Ouais, ouais voilà, on a l'habitude, si tu veux. Dire qu'on a la forme. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas la forme.
Par rapport à la plupart des gens qui n'ont jamais pris le vélo en ville depuis 15 ou 20
ouais,
ans.
Ouais, ouais, ouais.
Si, si.
Qui n'ont jamais pris le vélo en ville tout court.
Voilà. Non, moi j'étais plutôt en train de me dire une chose, c'est que par rapport au titre, je suis plutôt en train d'essayer de m'imaginer être obligé de prendre la voiture pendant 3 semaines.
Et ouais.
Putain, ça serait un vrai pensum pour moi, quoi.
Et ouais.
Putain la vache. Déjà, il faudrait que je parte bien une demi-heure avant pour aller au boulot. Alors que là, je pars à la bourre, j'arrive quand même à l'heure.
Puis moi, je vois les galères dans le quartier, entre l'accident dans le tunnel de Fourvière qui a bloqué pendant une semaine...
Le tramway ce matin,
oui. Ça n'a pas de conséquences jusqu'à chez moi. Mais avant les vacances, il y a 3 semaines, il y a un immeuble qui a brûlé.
Oui, oui, oui.
La rue Marieton est toujours fermée.
Oui, oui.
Ouais, tout à fait. Précision, en fait, on enregistre...
On
est le 10 novembre, c'est ça, demain, on est le 11. Ouais. En fait, il y a eu un accident assez lourd.
Non, pas eu un accident. Il y a quelqu'un... qui, a priori, n'a pas respecté le code de la route.
A grillé un feu rouge.
A grillé, non pas un feu rouge, mais un feu de signalisation de tramway. Hein?
Ça revient au même, en fait. À Bellecombe. À Bellecombe, si, c'était Bellecombe. Et c'est un feu rouge, en fait. Simplement, il n'y a pas de barrière.
Non, c'est pas à Bellecombe, c'est plus bas. C'est juste au-dessus de la Villette.
Oui, c'est au-dessus
de la Villette. Non, il n'y a pas de barrière, mais il y a quand même des feux rouges qui disent.
Dans tous les cas.
Feu clignotant, arrêt immédiat. C'est écrit en gros.
En bref, la bagnole était sur une voie de tram et le tram lui est rentré dedans. Et ça a bloqué une voie de tram toute la journée.
C'est la voiture qui a percuté le tram.
C'est la bagnole qui a percuté le tram.
Ah, dans ce sens-là, d'accord.
Du coup, le tram a déraillé.
Ouais,
c'est foutu dans un poteau.
Il a fini sa course dans un arbre et un poteau. tombeau.
Voilà. Voilà. Le tramway est mort. Ils ont été obligés de découper pour l'enlever des rails.
Voilà. Bref, vous regardez sur Internet, c'est ce jour-là.
Voilà. Ça vous fera des belles photos.
Ouais, c'est assez joli. Façon voilà. De parler.
Donc, pour en revenir à mon rétropédalage, donc, Paris a terminé, c'était le 19 octobre que se terminait l'opération 3 semaines sans ma voiture. Globalement, ça a été apprécié. Après, bon, il y en a qui
On a des idées sur les profils des gens ou parce que du coup, je veux dire, Boulogne, c'est pas Paris même, quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens de la banlieue,
tout
même si c'est de la banlieue proche, qui sont mis.
Justement, il y a des gens de pas de banlieue proche, parce que là, on a quelqu'un, Fabien, qui habite Bonneuil-sur-Marne, donc ça fait un petit peu loin, et qui bosse dans le 15e, donc 23 km.
D'accord.
Je suis trop loin du micro.
On était trop loin.
23 km de son lieu de travail, donc.
Ça commence à faire une belle distance, hein.
Et là, je dois dire que courageux quand tu n'as jamais eu cette démarche initialement de te lancer là-dedans.
VAE ou multimodal ou
Multimodal.
Multimodal. Il a pris le train.
Voilà, mais justement, il dit voilà, c'est chaque jour, il a fallu penser aux différents trajets de la journée. La ligne 8 est vraiment lente et longue. La 6, il y a constamment des problèmes de régulation. Mais donc, il y a les vélos électriques, l'autopartage, l'autolib.
Moi, je trouve ça intéressant parce que la question qu'on se pose pas dans nos trajets quotidiens, c'est la question du coût quand on est en voiture. C'est-à-dire que quand on a une auto, on se pose pas la question, on a besoin d'aller quelque part, on monte dedans et on y va.
Exactement.
Et sans se poser la question de combien de temps ça va nous prendre, combien ça va nous coûter, peu importe. Là, ça nous permet d'être en face des coûts, qu'ils soient humains ou qu'ils soient pécuniers, de nos déplacements, et du coup de réfléchir à ces trajets et de se dire, est-ce que ce trajet, il vaut le coup? Je vais là-bas pour faire quoi? Combien de temps ça va me prendre? Combien ça va me coûter? Combien ça va me coûter en temps, en fatigue, peu importe? Et est-ce que ce trajet, il en vaut la peine? Je pense qu'il y a un paquet de trajets en bagnole qui pourraient être évités juste si le coût était affiché.
Ben c'est clair que voilà, le côté financier a un impact sur la décision. Parce que tant que on est dans notre confort, c'est l'habitude.
Voilà, c'est ça.
Comme on disait tout à l'heure, on a toujours fait comme
ça. On a toujours fait comme ça.
Donc on ne se pose pas la question.
Comme on disait hors antenne pour les gens qui demandent.
Qui n'en sont pas dans le salon.
Voilà.
C'est plutôt une démarche courageuse en tout cas. C'est bien.
Alors après, je ne sais pas si les 73% de gens qui sont satisfaits de l'opération vont prolonger, mais déjà, ça leur ouvre l'esprit sur une alternative.
C'est ça. Si déjà, ça permet de casser des idées reçues, c'est toujours ça de prix, quoi.
Ouais, voilà. Puis au moins, ils feront attention aux cyclistes quand ils reprendront la bagnole.
Voilà. Mais donc, j'ai fait le rétropédalage sur Paris. J'ai pas retrouvé de retour sur Bordeaux. On verra pour le mois prochain.
D'accord. Et ben merci, Grincheux. Donc maintenant, ce sont les news. Allons-y.
Alors, moi j'ai une news qui date du 24 octobre.
C'est presque frais. Qui concerne une expérimentation qui va être mise en place à Paris, dans le 14e arrondissement.
Trois semaines sans m'avouer.
Je travaille avec des abrutis, c'est fatigant. Une expérimentation qui va être mise à Paris, donc des feux qui vont être désactivés à des carrefours. Le but, c'est de forcer les usagers de la route, quels qu'ils soient, que ce soit des automobilistes, des piétons, des cyclistes ou des deux roues, peu importe, à justement non plus se reposer sur la signalisation, mais à se reposer sur regarder...
Remettre le cerveau en marche.
Voilà, exactement. Être obligé de regarder où on va, qui traverse, qui veut aller à droite, pour être plus attentif.
Petit bisou en l'air, ça veut dire qu'il a beau être, il a beau avoir passé l'arme à gauche depuis, je crois, 10 ans, quelque chose comme ça. Ça prouve que Hans Mondermann fait encore des émules, parce que ça, c'est lui qui en était un fervent partisan aux Pays-Bas.
Ouais. Alors, je sais qu'il y a la même chose à Lyon. Si vous allez à la place des Terreaux, notamment, il y a des feux qui ont été désactivés depuis un peu plus d'un an.
Ouais.
Et du marquage au sol qui a été supprimé, justement pour forcer les gens à faire attention. Ouais. Et dans l'article qu'on vous linkera, qui est un article de Paris.fr, le site de la ville de Paris, il y a pas mal d'infos, il est assez long, il est assez bien foutu, il est assez didactique, il y a des infos intéressantes, hein, notamment Paris c'est 1805 carrefours, 20 000 feux tricolores, voilà, beaucoup de choses, début de la mise en place en 1923, parce qu'il y a quand même, il ne devait pas y avoir un trafic de furieux en 1923, je pense,
même pour les feux, c'est tôt.
C'est tôt. Et
la généralisation, c'était les années 50 avec le boom des bagnoles.
Ouais, c'est ça. Alors, a priori, le but, c'est de voir s'il y a un effet positif sur les piétons. Parce que ce qu'ils disent dans l'article, c'est que les piétons, à Paris, c'est 50% des victimes, des accidents.
C'est très lourd.
Bah ouais, mais presque 600 morts par an hein, en France qui touchent les piétons. Hein. Donc, voilà. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que voilà, le cas le plus fréquent dans un accident, c'est que c'est le refus de priorité. Le piéton, il avait vert, il se fait taper. Ouais. Tout bêtement.
Tu voulais dire quelque chose, Crachot ?
Oui, parce que ça vient un peu en écho d'un post que j'ai vu de 50 euros aujourd'hui, qui critique un peu les pubs pour la nouvelle Mercedes classe S, donc qui est bardée d'aide à la conduite, et qui font se demander mais à quel moment le conducteur a encore un rôle à jouer.
Il paye.
Oui, non mais comment il a eu son permis, le mec ? Donc, t'as l'ordinateur et qui analyse les panneaux qu'il voit autour et qui te met des informations sur le tableau de bord pour te dire attention, il y a un passage piéton, attention, tu risques de t'engager dans un sens interdit.
C'est quand même assez aberrant.
Alors, technologiquement, c'est très beau, mais ça veut dire que le conducteur ne fait plus attention à ce qui se passe en dehors de son habitacle.
Mais si on veut pousser la logique un peu plus loin, ça reviendrait à utiliser des smartphones pour qu'ils nous balancent en audio le contenu d'un livre qu'ils liraient à notre place, quoi. Ça en revient à ça, quoi. C'est assez honteux. Au passage, d'ailleurs, quand on parle
parce que les livres audio, ça existe.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme si tu faisais lire un texte par une machine qui te le ressort à l'oral parce que tu sais pas lire. C'est ce que je veux dire, tu vois. C'est utiliser une espèce de prothèse. Informatique, mais au lieu de...
En fait, le problème, c'est que je pense que là, les voitures, elles sont à mi-chemin entre l'autonomie et les assistances poussées.
C'est ça.
Et ouais, que...
Et on déresponsabilise
voilà.
le conducteur.
Par contre, le problème, c'est ça. C'est la déresponsabilisation du conducteur en disant, c'est bon, la voiture, elle va freiner.
Ah, je me suis engagé sur l'autoroute à contresens, c'est le GPS qui m'a dit de tourner là.
Voilà.
C'est ce système-là qui est poussé encore un peu plus loin.
Le gros problème, c'est que comme ça va déresponsabiliser, c'est-à-dire que si jamais il y a une responsabilité à prendre, ça sera celle du constructeur.
Non. En cas d'accident, ce sera celle du conducteur.
Non, mais la question va se poser de savoir qui est-ce qui a programmé l'ordinateur. Le jour où on a des voitures vraiment autonomes, c'est auprès des constructeurs qu'on va se retourner.
Mmh, alors, pour le moment, les voitures qui s'envisagent, elles sont autonomes avec un conducteur qui doit reprendre la main à la moindre alerte du véhicule. Mmh. L'autopilote Tesla, c'est ça.
D'accord, ok.
Pour le moment. Je pense pas que la législation en Europe, et en tout cas en France, soit prête à autoriser la mise dans les mains de complets particuliers pour des trajets privés, des véhicules complètement autonomes.
D'accord.
En France, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais c'est mort.
Faudrait voir, parce que j'ai un peu peur qu'effectivement ça en vienne à brouiller les lignes au niveau des responsabilités.
Je
pense qu'on n'aura plus de pétrole avant.
Mais ils mettront des pédales, c'est pas grave. Dans la partie morale du truc, il y a même pire que ça, il y a des gens qui se posent la question de quand tu codes une IA qui s'occupe de gérer la voiture, dans le cadre d'accident, on doit prendre un choix de dire j'évite un piéton mais je me fous dans un mur parce que j'ai pas le temps de freiner, il y a une chance de tuer le conducteur, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on préserve le conducteur parce que c'est le client de la voiture et qu'on peut pas vendre une voiture qui va prendre le choix de tuer son conducteur ou son passager en cas d'accident, ou est-ce qu'on préserve la vie du piéton qui lui n'a rien demandé et tu vois, qu'est-ce que...
Oui. D'accord, là il y a des comités d'éthique qui doivent commencer à transpirer de l'acide,
je vois.
Donc on est même pas en plus dans le cadre légal là, c'est encore pire que ça. Donc c'est des choses compliquées, mais je trouve que en effet les pubs télé pour les dernières bagnoles bardées d'assistance, déjà moi si j'étais conducteur de voiture, je me sentirais un peu vexé parce que tu passes quand même pour un gros branlot. Hein, oui. Il y a besoin qu'on t'aide pour faire un créneau, pour freiner quand c'est rouge. Faut regarder la voiture de devant, il faut freiner. Oui, les gars.
Pour avoir eu une voiture qui avait un truc d'assistance au parking, en gros, le truc qui était capable de se garer tout seul, quand c'était des parkings faciles, donc là où tu n'en avais pas besoin.
Là où tu galères, par contre, alors, il dit non.
Pour rebondir à ce que tu dis, moi j'ai eu une voiture pendant nombreuses années, jusqu'en 2013, date à laquelle je l'ai foutue à la casse, et quelques temps plus tard, genre un an ou deux plus tard, dans le cadre de mon travail, on m'a passé la voiture de service qui, effectivement, alors elle ne faisait pas des choses toute seule, mais me donnait des indications. Elle bipait, elle ouvrait des trucs et machin, elle dépliait les rétros. Et effectivement, c'est assez pénible d'avoir la voiture qui fait la moitié des choses toute seule et qui te dit quoi faire. T'as juste envie de lui claquer le beignet.
Ta gueule, Martine!
Tu me laisses conduire, tu te tais, tu arrêtes. Voilà, c'est pénible. Voilà. Bon, ouais, okay. Donc je comprends un petit peu. D'ailleurs, au passage, la bise à 50 euros, parce que c'est Jean-Claude, on l'a reçu, oui. 50 euros, voilà. Oui, non, j'étais en train de réfléchir, oui, non, c'est ça. Oui. Il est un peu tard. Voilà, donc bise Jean-Claude. Autre news ?
Ouais, j'ai une deuxième news. Oh, oui, je dis news, et je dis ce que je veux.
Une news.
Alors là, c'est tout en anglais, mais c'est intéressant quand même.
Quand même.
Mais je dis ce que je veux, c'est ma news,
si
merde.
Ouais, par contre, alors si tu continues à faire des trucs comme ça, tu risques de me retrouver en train de baver vert sous la table là. Vas-y. Grincheux nous a quitté, t'es allé chercher une bière. Non, vas-y, continue. Non.
Donc une news qui parle de l'obsession des assurances. Britannique pour les dashcam. Vêtements haute visibilité pour les cyclistes.
J'ai cru que t'allais dire ovulatoire.
Ovulatoire, je vois pas l'instant. Haute visibilité.
Haute visibilité, d'accord.
Un article qui parle de différentes choses, notamment un lien vers une étude qui démontre qu'ils ont testé plein de vêtements haute visibilité qui démontre que c'est
que ça ne sert à rien.
Assez peu efficace, voire même que ça a l'effet contre-intuitif du bien casque, sûr. Où les automobilistes repérant les gilets haute visibilité passent en moyenne plus près
bien sûr.
Des gens équipés
et ça fait,
que des gens pas équipés.
Ça fait 10 ans que je connais ce genre de...
C'est une étude aux doigts mouillés ou c'est...
Non, a priori... alors j'ai pas tout lu.
Sature.
Je fais ce que je veux. C'est ma news. Je fais ce que je veux. Non, j'ai pas le détail de l'échantillon, mais a priori, ça a l'air assez.
Mais non, enfin, j'avais déjà vu des études qui donnaient ce même résultat.
Alors,
et il y a 15 ans ou 20 ans, en moto, même chose. Une étude qui disait que anglaise aussi, bah, ils sont très très attachés à la haute visibilité.
Alors en fait, l'autre partie de l'article, là, on parle justement parce que il y a des assurances qui refusent de rembourser les sommes maximum prévues si un piéton ou un cycliste n'était pas équipé d'équipement haute visibilité lors de l'accident. C'est-à-dire que là, il parle d'un cas d'une...
Encore du victim shaming, quoi.
Exactement, d'une petite fille qui s'est fait renverser par une voiture. Y a eu un procès. L'assurance a été condamnée à payer et ils ont réussi à ne pas payer la totalité de la somme parce que la petite fille n'avait pas de vêtements haute visibilité.
Elle était quoi ? Elle était à vélo ou à pied ?
À pied.
À pied ?
À pied.
Bande de raclure.
Voilà. C'est beau, hein ?
C'est juste honteux, quoi.
Voilà.
Qu'est-ce que tu cherches ?
Je l'avais magnétisé à la gamelle.
Ça me fait flinguer mes adaptateurs.
Bon, on s'en fout sa ceinture de toute façon.
Bah, peut-être qu'il voudrait que tu lui ouvres la sienne aussi.
Mais j'ai pas demandé de bière, moi.
Bah, il t'en a apporté une quand même.
J'en ai pas demandé. Et je veux un million de dollars.
La boire.
Bien. Excusez-nous pour cette bref interlude.
Oui. Alors donc du coup.
Bien dans le micro.
Cette étude donc de...
Je sais plus, c'est un gars anglais de l'université de je sais plus où, je linkerai le zinzin.
D'accord, et donc du coup, ce qui était censé... donc cette étude, grosso modo, ce qu'elle dit...
Docteur Ian Welker, voilà, de la Bath University.
En fait, au final, les assureurs et à peu près tout le monde, tous les dirigeants...
Alors en fait, les assureurs, il y a plusieurs cas qui disent que du coup, il y a de la jurisprudence chez eux, donc...
Il y a les petites raclures et les grosses raclures.
Ouais. Accident sans vêtements haute visibilité, on n'est pas obligé de rembourser toute la somme prévue par la justice. Et l'étude qui dit vêtements haute visibilité égale en moyenne des passages plus près pour les cyclistes, même résultat que sur les casques.
D'accord.
Voilà.
C'est honteux.
Donc un effet contre-intuitif des équipements soi-disant de sécurité. Après, en effet, un gilet jaune, on te voit beaucoup mieux.
Tout à fait. Oui, non, mais ça.
Bon.
Voilà.
À suivre. À suivre, à suivre. D'autres news ?
Non, je crois que c'est tout.
D'accord.
À part les tramways qui se font renverser par les autos, non, ça va. Après, il n'y avait pas de gilet haute visibilité, le tramway. C'est peut-être de
c'est
sa
ça.
Faute.
Ah oui, c'est ça.
Non, mais en fait, il avait bien cherché. Hein.
Il avait une mini-jupe, je suis sûr.
Il avait une mini-jupe, il avait bien cherché. Hein.
Heureusement.
Mogor.
Ah, dans une autre pièce.
Non, non, mais en plus, on sait très très bien que moi, je l'utilise de manière fortement ironique sur Internet pour ce genre de choses. C'est quand les mecs te disent « Ouais, non, mais c'est bien la faute des cyclistes, etc. Bah, » Tu leur sens ça, c'est marrant.
Des cyclistes.
Ils répondent rien derrière, c'est marrant, ça leur fait bizarre.
Ouais. C'est encore un vélo qui a grillé le feu.
Voilà, c'est encore un vélo qui a grillé le feu, c'est ça. C'est en ligne droite, monsieur.
Si, j'avais une autre news, mais j'ai pas eu le temps de bosser. Ça parle de la prime VAE, qui n'existera plus sous la forme qu'on connaît. Au 31 janvier 2018, mais qui va être remanié. Alors, il y avait des votes aujourd'hui. Tous les amendements n'ont pas été votés et il parle notamment d'une condition de revenu pour verser la prime, parce que ce qui ressort des versements, c'est que les catégories qui profitaient de cette prime d'achat de VAE de 100 €, c'était plutôt des catégories aisées. Voilà.
De ce que j'ai observé, ça pourrait, ça serait raccord, oui, effectivement.
Ouais, voilà. Et que du coup, le gouvernement voudrait plutôt favoriser des gens qui ont un peu plus besoin de ça.
Plus modestes.
Plus
modestes.
Bon. Après, la prime à l'achat d'une voiture électrique, il n'y a pas de conditions de revenu. Voilà. Et qu'on file des sous au CSP+, pour qu'ils arrêtent de prendre des SUV en ville plutôt que. Moi, ça ne me gêne pas qu'on dépense de l'argent public pour ça.
Voilà. Entre une Dacia et un. Et
un Q7.
Un Q7 ou une voilà. Tesla, c'est pas la même cible, même avec la prime de
ouais,
disons que si mettre des conditions de revenus permet de faire peut-être moins de primes, mais des primes plus importantes qui permettent d'aider les gens qui sont plus dans le besoin, ça peut être intéressant.
Oui, oui, non, mais je dis pas. Après, voilà, c'est bien que ce soit pas abandonné purement et simplement. Après, la condition de revenu pour une prime de 200 balles, franchement, bon. Ça a plutôt bien marché, hein, parce que je crois qu'il y a eu. Pas loin de 70 millions d'euros de primes distribuées hein, l'année dernière. Mmh. Donc ça représente quand même un beau volume de VAE.
Un beau paquet de VAE. Ouais. Mais l'observation que ce sont des CSP+, c'est
ouais,
ça c'est,
a priori, voilà. Oui. Plutôt des classes aisées.
Des classes aisées, ça c'est raccord avec moi les observations que j'ai faites d'un point de vue professionnel ouais. En intervention. Toutes les personnes qui me parlent de VAE ne travaillent pas à l'usine. Quoi,
ouais, voilà. Non mais là les résultats de la prime, c'était CSP+. En deuxième, c'était des retraités pour beaucoup de déplacements de loisirs.
Sims Legit.
Voilà. Et après, ça se diluait petit à petit. Mais en gros, CSP, c'était les deux tiers, quoi.
Mais les retraités peuvent aussi faire du vélo taf.
Oui, après, le truc, c'est que je crois que c'était l'INSEE. Je vous retrouverai ça, on vous mettra les liens. C'était éminemment focusé sur... Putain, j'ai une vandamite, ça y est. C'était... Aidez-moi au lieu de vous foutre de ma gueule.
Concentré
sur des trajets domicile-travail. Ce qui n'a pas forcément de sens dans du cyclisme utilitaire. Je veux dire, avoir un VE pour aller faire ses courses, c'est intéressant. Ouais. C'est pas un déplacement domicile-travail.
C'est ce que j'allais dire. C'est que moi, j'ai mes vieux, ils sont tous les deux à la retraite. Ils ont des VAE et ils s'en servent pour aller faire des courses. Et voilà. Je suis super fier d'eux parce qu'ils le font à la campagne. Alors qu'ils ont deux voitures.
Eh ben, respect à tes vieux.
Ouais. Bon.
Voilà.
Et ben donc on va passer du coup si on a plus de news on va peut-être passer au dossier parce que ce soir on est vraiment des grosses feignasses, c'est-à-dire que moi j'ai rien prévu, Warthog non plus et c'est grave.
C'est pas vrai, j'avais des news.
Voilà, t'avais des news, moi j'avais rien du tout.
Ouais, moi j'ai pas préparé mes news et j'ai eu du travail donc j'ai pas pu préparer mon dossier.
Bon bah écoutez, c'était le cyclocast numéro 26.
J'ai un dossier.
Ouais, non, en plus c'est vrai, tu nous en as parlé. Donc ça va parler de quoi ton dossier, Grincheux ?
Ça va parler des vélos bizarres.
Les cargos, tu veux ?
Vélos bizarres.
Pas que.
Vous avez dit bizarres. On t'écoute.
Eh monsieur, il est bizarre ton vélo. C'est par ces quelques mots d'enfant au sujet de mon cargo que j'ai rencontré la fille de mon copain Pierre, qui elle roulait... En chaîne de vélo couché.
Oui, chaîne de quête.
En chaîne de vélo couché.
Ouais. Oui, chaîne de quête.
Donc des vélos quête que tu peux attacher.
Ah, d'accord, ok, oui, comme un petit train en fait de vélo. Ok. Oui, je vois ce que tu veux.
Oui, c'est vrai, elle t'avait balancé ça, fille.
Donc,
de Pierre.
Comme quoi, bah, on est tous le weirdo
c'est
d'un autre.
C'est qui est.
Surtout, bah, et bien sûr, surtout si on ne se fond pas dans la masse.
Ouais.
Donc pourquoi je vous parle de cette anecdote, bah, parce que justement, aujourd'hui, je vais vous parler des vélos bizarres. étant moi-même familier de beaucoup de vélos considérés comme hors normes. Mon seuil pour considérer un vélo bizarre est assez élevé, mais j'en vois quand même quelques-uns parfois. Donc je vais essayer de vous présenter de façon la plus exhaustive possible les principaux types de vélos spéciaux qu'on peut trouver. Pour la majorité, un vélo, c'est quoi ? Ça va être un cadre. Généralement, si on demande un cadre de vélo, ça va être un cadre diamant, avec ou un cadre ouvert, deux roues, une selle et un guidon.
C'est une draisienne, ça.
Une démultiplication.
Oui, une transmission. Mais bon, grosso modo, un vélo, ça va se résumer à ça. Alors, la première...
Ça, c'était un rototo de bière. Et un collègue fort peu courtois qui se marre.
J'ai eu la courtoisie de faire ça hors micro, personnellement.
Donc, je ne vais pas m'attarder. Donc, la première catégorie, ça va être toutes les déclinaisons de vélos plus ou moins standards.
Est-ce qu'un tandem, c'est bizarre, par exemple ?
Je vais parler des tandems. Ça fait partie d'une catégorie. Parce que, voilà, autour de cette architecture classique, on peut trouver des petites variantes, notamment au niveau de la transmission. Donc, un truc qui a fait pas mal de buzz en ce moment, c'est le string bike. Vous avez sûrement vu passer...
Ah, j'ai vu ça, ouais, le vélo qui ressemble à un yo-yo, là.
Voilà. Donc, c'est un vélo
avec
une transmission...
Alors, pour les plus jeunes, un yo-yo, qu'est-ce que c'est ?
Non, ça va, on sait ce que c'est.
Et les plus jeunes, ils iront chercher. Merde, ils connaissent Internet.
Google. Brock, tu fais pas partie des plus jeunes, par contre. Hein. Tu feras attention.
Donc, c'est un
ta gueule.
Donc, c'est un vélo avec une transmission avec des cordes. Et de ce que j'en comprends, un système de double roue libre avec des enrouleurs.
Ouais, il y a plein de poulies pour démultiplier le bordel au milieu.
Dans tous les sens. C'est une usine à gaz monumentale.
Le gars, tu lui mets un coup de ciseau au feu rouge, jamais il repart.
Un système de dérailleurs, c'est pas des dérailleurs parce qu'il n'y a pas de...
Ouais, non.
Mais de démultiplication avec double câble, donc...
Oui, parce qu'en fait, ouais, la corde passe de chaque côté du cadre, en fait.
Il y a une corde de chaque côté du cadre, parce que, en fait, pour avoir un entraînement continu, t'en as une qui enroule pendant que l'autre déroule.
Voilà, c'est ça.
Et c'est pour ça qu'il doit y avoir un système de double roue libre.
C'est pas un yo-yo, c'est un diabolo, en fait.
Et je peux vous dire que ça a méchamment biatché là-dessus sur The Funny Side to Bicycle Mechanics, quoi.
Bah, tu m'étonnes, ouais. Parce
c'est une obscure page, j'en ai peut-être déjà parlé, c'est une obscure page de mécano vélo sur Facebook. Et quand c'est passé, on s'est bidonné.
J'imagine.
C'est une tentative de réinventer la roue.
Voilà,
en fait.
Je dis mets le dérailleur, mais c'est pas la démultiplication, donc ça va être un bordel sans nom à équilibrer. Parce que si tu veux que ça marche bien, il faut que ça soit bien tendu pareil. Quand tu... Voilà. T'as un cadre spécifique pour passer toute la transmission.
Ouais,
Une roue arrière spécifique. Donc voilà, plein de trucs pas standards, sûrement brevetés, donc pas adaptables par une autre marque que celle qui commercialise.
Ouais, mais tu peux faire sécher tes culottes à l'arrière.
Ah, ça peut intéresser.
Il y a une corde à linge.
Ouais. Ça peut intéresser Grioui.
Alors, oubliez non, parce que ça va vite se coincer dans les rayons.
Ouais, mais si tu roules vite, ça fait du vent, ça fait sécher plus vite.
C'est ça.
Tu nous as pas vu, nous, en rando avec les types des gamins.
T'étais pas dans le Vercors parce que figure-toi que Grioui, petit coucou si tu nous écoutes, elle s'amuse, son linge, à le faire sécher non seulement sur son vélo, mais quand elle a plus de place, parce que c'est une fille qui est relativement menue, quoi. Donc elle a des petits paquetages, elle a un petit vélo, donc elle a pas beaucoup de longueur pour faire sécher. Du coup, elle s'amuse à te caler son linge en catimini sur ton vélo.
Ah, donc tu te trimbales les culottes, pas à toi.
Fourbe. Exactement.
Bon, elles sont propres.
Ah oui, mais voilà, du coup,
c'est fourbe. Mais j'aime bien.
C'est fourbe.
Ouais, effectivement, moi je me suis dit, mais c'est quoi ces chaussettes ? C'était toute petite. Ah, mais c'est les miennes. Ah, d'accord. Voilà, c'était très drôle. C'est intéressant.
Donc voilà, sinon, autour d'un cadre traditionnel, on va aussi trouver des transmissions à tringles, sans pédalier. Donc, tout comme Tomcat en a publié un proto.
Sans pédalier.
Oui.
C'est une draisienne.
Non.
Mais ça marche pas.
Comment tu actionnes ?
Avec des bordels.
Attends.
Ça ressemble à j'ai la photo sous les yeux. Ça ressemble à un vélo elliptique un peu, vous voyez,
ouais,
avec des plateformes qui montent et qui descendent.
Ah, mais attendez-vous que ça, messieurs, c'est un système qui existait déjà avant l'invention du pédalier.
Alors, bizarrement, il y a quand même une chaîne.
C'est le système Macmillan ou Macadam.
J'en sais rien.
C'est un système avec des plateaux articulés.
Alors là, il n'y a pas de plateau, il y a une transmission classique, mais qui est actionnée par
une espèce d'axe horizontal et
photo.
Oui, je mettrai la photo.
Ouais, faut que ça, tu mettes la photo parce que j'arriverai pas à le décrire.
C'est une photo de Tom Cat quand il était pour le boulot en déplacement à Decathlon au Between Village à Lille, où sont exposés certains prototypes de plutôt bizarroïdes.
En termes de rendement, ça doit pas être fabuleux ce machin.
Et puis, le poids
et
le look.
Les transmissions.
Le look, c'est pas grave.
Les travaux qui ont été faits sur les transmissions de manière sont revenus à réinventer la roue. En fait, globalement, il y a plein de gens qui ont essayé de faire plein de trucs en disant ouais, je vais gagner en rendement, etc. Ouais. Puis au final, ça ne marchait pas. Les seules transmissions qui sont concurrentielles, ce sont les transmissions d'Itakaten, c'est-à-dire les transmissions courroies. Tu en sais quelque chose, toi?
Puisque t'as... Je débute.
Tu débutes.
J'avoue que...
Voilà. Il a un nouveau joli cargo tout chouette, Warthog. Et puis les transmissions, même les transmissions à arbre.
À cardan, là?
À cardan, c'est pas top top.
Il paraît qu'en rendement, c'est dégueulasse.
C'est pas. Voilà. La chaîne, on a rien fait de mieux depuis.
Ouais. Mais on avait vu un paquet de saloperies quand on était au musée des cycles à Saint-Etienne, avec des machins.
Mais
c'était le début. Voilà, il y avait tout à faire.
Voilà.
Ils inventaient, ils avaient tout à faire et ils expérimentaient.
Là, t'as des gens qui essaient d'y revenir pour essayer de voir si c'est mieux. Mais c'est pas mieux. Bon. Et oui, les plateaux, là, c'était un système qui avait été inventé au début pour actionner la roue avant qu'on pense à utiliser une chaîne avec un pédalier.
Ah, la roue avant, en fait. D'accord, ouais. Ouais. Non, bah, je vais garder ma courroie, du coup.
Ouais, garde ta courroie.
Ouais, ouais. Donc, voilà, sur des cadres dits traditionnels, bon, il y a plein de choses originales. Mais bon, souvent, on se retrouve avec des trucs lourds, complexes et esthétiquement discutables, au minimum. Donc... Ma première catégorie de vélos vraiment spéciaux, je vais commencer par les cargos.
Oui. Alors, tout de suite.
Tout de suite.
Tout de suite les gros mots.
Donc le cargo, c'est un terme générique pour un vélo avec une capacité de transporter des grosses charges. Ce soit des enfants, des packs de bière, ce qu'on veut.
De l'outillage.
De l'outillage.
Le mec qui prêche pour sa paroisse.
Moi, le dernier truc que j'ai transporté, c'est de la litière à chat, alors.
Des matelas, enfin voilà.
Des matelas, on a fait.
On va séparer
un matelas.
On va séparer en deux grosses catégories qui peuvent après aussi être recatégorisées. Donc on va déjà avoir les vélos à deux et les vélos à trois roues ou plus.
Parce qu'il y en a plus.
Il y en a plus.
Oh.
Bah, au moins quatre.
D'accord.
Donc dans les vélos à deux roues, bah, c'est le cargo le plus simple, on va dire. C'est un vélo. Le cargo le plus simple, ça va être un vélo qui est équipé de gros porte-paquets.
C'est ça, moi j'en sais quelque chose, et puis Mogor aussi.
Un gros porte-bagages à l'arrière, un gros porte-paquet à l'avant, c'est déjà ce qu'on appelle un petit porteur.
Mmh. Les vélos de la poste.
Les vélos de la poste.
Par exemple, ouais.
Donc pour pouvoir installer des colis. Bon, le problème c'est que la capacité de charge est limitée malgré tout, l'équilibre s'en ressent parce que les masses sont généralement assez hautes, mais c'est une solution facile parce qu'en général on peut adapter sur pas mal de vélos standards.
L'avantage aussi c'est que ça se comporte comme un vélo normal.
Alors ça se comporte, ça dépend, parce que quand tu rajoutes 40 kilos en plus sur un vélo, si le cadre n'est pas renforcé, ça peut s'en sentir.
Il n'empêche que au quotidien, ça reste un vélo long, mais ça reste un vélo. Donc si tu sais conduire un vélo, tu sauras
comment. Alors là, je parlais même pas des longues tailles, je parlais juste d'un vélo avec des...
Non mais oui.
Ah, tu parlais pas. Oui, c'est...
Non mais même que ce soit avec
les vélos de la poste,
sont
un peu rallongés. Hein. Oui, légèrement.
Ouais, mais parce que maintenant il y a la batterie.
Même les vélos secs. Alors viennent ensuite les longues tailles, donc les vélos qui sont rallongés. Comme mon Mogor, Prokilus et Warthog, je sais pas si tu n'as plus.
Tu l'as
plus.
Bah non.
Parti.
Ah non, je sais pas que tu l'avais déjà vendu, donc voilà.
Et il est parti en un jour.
Tu m'étonnes.
Donc, c'est des vélos qui sont, comme on le dit, très, très versatiles parce que ça se manie tout comme un vélo classique, mais avec l'arrière qui est rallongé, on gagne en stabilité, notamment quand c'est chargé. Et puis, ça a des capacités de charge beaucoup, beaucoup plus importantes.
Un peu.
Donc, la longue assise, ça permet d'installer deux, voire trois enfants, mais aussi de mettre pas mal de gros objets, des grandes sacoches.
C'est toi la sacoche.
Tu peux aussi mettre des caisses.
Ouais. Ou un matelas.
Voilà. Donc, certains long tail permettent une petite plateforme rabaissée entre le tube de selle et la roue arrière.
Tu penses au Moderna ?
Exactement.
Ah, c'est, ouais,
alors
c'est...
le Moderna, de même, ils ont plutôt tendance à appeler ça un biporteur à plateau arrière, c'est-à-dire à appeler ça un bullet à l'envers. voilà. Et j'avoue que c'est une classification qui est pas idiote parce qu'en soi, il y a le plateau et derrière, autour de la roue, il y a aussi un porte-bagages. Donc il y a vraiment une plateforme. Oui.
J'ai jamais vu en vrai ça.
Honnêtement, Moderna, je sais pas si c'est des distributeurs en France, mais quand je serai lancé, s'ils veulent un distributeur français, c'est des Autrichiens. Moi, je serais bien prêt à aller soutenir. Franchement, le prix est pas donné. Hein. Le vélo est plus cher qu'un bullet, mais
ouais.
putain, ça a vraiment une gueule improbable, mais c'est génial.
Ah ouais, c'est vraiment une gueule improbable. Quand ouais. tu le regardes de profil, c'est... ça ressemble à rien d'autre.
Ouais, voilà.
Pardon, je montre une photo d'un matériel.
Non, mais c'est exagéré. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, c'est un bullet, sauf qu'au lieu de la plateforme est en train d'être entre le guidon et la roue avant, elle est entre le tube de selle et la roue arrière.
Le Moderna, c'est dur à classer parce que c'est le seul de sa catégorie, en
voilà,
fait. Il est vraiment...
Il faut faire une catégorie Moderna.
Voilà.
Bah, en fait, Moderna...
C'est un fabricant qui fait des bizarreries en série, un peu,
voilà,
non ?
Donc ouais. ils font aussi un quadricycle avec un gros plateau au-dessus des roues arrière.
Ouais.
Attends, ça, je veux voir.
Ah bah, c'est... On dirait le Mars Rover, un peu. Je vous jure que c'est ça. Sauf qu'il a 6 roues, le Mars Rover. Mais...
Ouais. On dirait Curiosity, effectivement.
Ah, c'est eux qui ont fait la 911 à pédale.
Ah, c'était eux, la 911
oui.
à pédale.
Ouais, ouais, c'est Moderna, ouais.
Ah.
Oui, oui, ce sont les cinglés qui sont amusés à faire un vélo à 4 roues.
La Ferdinand GT3 RS.
Voilà, alors explication pour les gens qui connaissent pas l'histoire.
On l'avait déjà posté ou pas?
Non.
Non crois... Intégralement fait en tube PVC et en scotch.
Ouais. En fait, ce sont des mecs qui sont amusés à faire un châssis de vélo avec deux pédaliers et puis un volant pour guider. Mmh. Et par-dessus, ils ont posé une carrosserie effectivement en scotch et en tube PVC.
Ouais,
et
c'est
on...
ça.
Et voilà.
en carton.
Et en carton.
Avec une couverture de survie.
En couverture de survie, je crois.
Ouais, elle est dorée. Elle est dorée.
Mais elle est super ressemblante. Hein. C'est une très très bonne contrefaçon.
Tapez
hein.
Porsche à pédale sur Google, vous devriez tomber dessus.
Ferdinand GT3.
Ferdinand GT3. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Et franchement, ils ont eu un succès dans les. Je crois qu'ils sont d'Innsbruck. C'est dans les rues d'Innsbruck qu'ils l'ont testé. Ils ont eu un sacré succès. Et à côté de ça, c'est des valeureux parce que ça grimpe pas mal quand même là-bas.
Donc voilà.
Donc tu nous parlais des cargos et de Moderna.
Voilà. Donc dans les cargos, c'était quoi ce bruit ?
C'est moi, je fais des saloperies avec mon micro.
Oui, c'est ce qui me semblait. Hein. Trop dégueulasse.
Il est consentant mon micro.
Donc après les vélos rallongés, donc il y a les cargos à plateau avant, donc comme le sont le Bullitt,
le Backfit,
le
12.
Le 12.
Donc, des bizarreries genre l'Omium qui est un peu différent aussi.
Ouais, l'Omium je le classerais plutôt
dans les porteurs.
Dans
non
les porteurs, ouais. Ouais. Parce que c'est un vélo
c'est
à plateau avant, mais le plateau est au-dessus de la roue avant.
Ouais, voilà.
Et puis il est alors sur l'Omium Mini, ouais, sur l'Omium il est au-dessus.
Ah oui,
mais...
oui, le plateau est au-dessus.
Ouais. Mais il est surélevé dans tous les cas. Ouais.
Il est surélevé. Et il est la taille du plateau est modulable parce qu'avec un système de tube télescopique.
Ouais, c'est
un gogo gadget au vélo en fait.
Un peu.
Alors celui-là pour le coup c'est vraiment un vélo bizarre. L'Omnium.
Il a une gueule vraiment. À la...
Ouais, j'en croise un sur mon trajet.
Boum en a à ma connaissance il a toujours le sien. Mais
ouais,
c'est un mini.
Ouais, c'est un mini.
J'en croise un grand je pense sur mon trajet de temps en temps. Et c'est vrai que ça. Tu sais jamais quand ça va tourner, ce machin, c'est assez chelou.
Le mini, c'est très déstabilisant. Boum Boum l'avait fait tester. Et le gros souci, c'est que le plateau est solidaire du cadre et non pas de la fourche. Donc en fait,
le plateau ne tourne pas.
Le plateau ne tourne pas, il reste droit quand tu tournes. Et ensuite, bah, malgré tout, ça fait un surpoids à l'avant. Ce qui fait que lorsque tu piles du frein avant, t'as la roue arrière qui soulève très facilement.
Ouais, d'accord.
J'imagine.
Bah, même moi, avec mon poids, j'ai réussi à faire soulever la roue arrière quand même. Donc c'est vous dire. Mais ouais, ça c'est vraiment, vraiment zarbi quoi. Pardon.
Donc voilà, après il y a les cargos à plateau avant, et puis bah, ça va être les principales catégories des cargos à deux roues. Sur les cargos à trois roues, bah, on va principalement avoir soit des triporteurs avec une caisse à l'avant, donc deux roues avant avec une caisse, entre les deux roues pour charger. Soit des vélos avec une caisse à l'arrière ou carrément une cabine à l'arrière, comme sont les vélos de DHL.
Des tricycles.
Ça, c'est des tricycles, c'est pas des triporteurs.
C'est, bah, d'habitude, normalement, c'est triporteur, c'est à l'avant, tricycle
oui.
à l'arrière.
Ouais, voilà. Mmh. Pour moi, tricycle, c'est quand t'es à trois roues, notamment deux roues à l'arrière. Mais
non, j'ai pas un tricycle, moi j'ai un triporteur. Je refuse qu'on traite mon vélo de tricycle.
Je pense que ton appellation grincheux, elle est juste, mais c'est une question de convention.
Ouais, enfin, c'est le triporteur. Pour moi, c'est que tu lui colles de la charge, et quand tu prends les vélos, notamment de DHL, qui ont une cabine derrière.
Ouais. Ouais, ou même les vélos taxi.
Oui, ou les vélos taxi.
L'espèce de
tuk-tuk
là, il y a trop de roues à l'arrière.
Tout à fait.
Les cyclopolitains.
Et tuk-tuk.
Donc voilà, ça c'est pour les vélos à trois roues, c'est beaucoup moins diversifié.
Tu vas pas mettre trois roues dans la longueur en même temps,
oui,
ça sert à rien.
Il y en a quelques-uns qui ont des trucs bizarres qui penchent. Parce que c'est le problème des vélos à trois roues, c'est que ça penche pas.
N'est-ce pas, Warthog?
Alors, c'est surprenant, hein, je vais en parler deux minutes, c'est-à-dire que ça penche, mais pas autant qu'un vrai vélo. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a une butée. Et là, truc contre-intuitif, pour continuer à tourner, il faut pousser le guidon. Sur un vélo normal, quand tu penches, tu tournes pas le guidon, parce que sinon, tu te casses la gueule. Ouais. Et ben là, il faut. Je me suis fait deux, trois bizarreries dans des virages où... Ouais. Ah, c'est... Merde. Ah, ah. Faut tourner.
On peut dire ce que tu as remplacé ton long tail par un Butcher and Bike.
Butcher and Bicycle. C'est un triporteur à parallélogramme.
Un triporteur pendulaire.
Et un triporteur pendulaire, exactement. Donc en fait, il y a bien une caisse à l'avant avec deux roues de chaque côté de la caisse. Sauf qu'un triporteur...
Une de chaque côté.
Oui, une de chaque côté de la caisse, oui, pardon. Sauf que contrairement à un triporteur où il y a une espèce de... Il y a une jonction juste derrière la caisse, en fait.
C'est un pivot sous la caisse.
Voilà, un pivot sous la caisse. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toute la caisse tourne.
C'est ça.
Là, quand on se penche, les deux roues latérales se penchent aussi pour pouvoir tourner.
C'est le système, en fait, de l'adbike de Renault qu'on
exactement.
A reçu.
Exactement. C'est le même principe.
Ans.
C'est exactement le même principe.
Ouais.
Donc, ça se comporte. Parce que, en fait, le problème du triporteur, c'est que quand on tourne sans se pencher, on est embarqué vers l'extérieur du virage.
C'est ça.
On n'a pas de vecteur qui contrebalance notre.
C'est méchamment survireur un triporteur à plateau.
C'est casse-gueule.
Ça permet pas d'aller vite en fait, tout simplement.
Voilà.
C'est tout ça.
Oui, c'est ça.
Là, l'avantage, c'est que voilà, quand on se penche, le reste du vélo se penche et on peut tourner presque normalement.
Et très honnêtement, pour avoir là, on est venu chez vous avec. Je m'adresse à Grincheux. On est venu chez vous, on a fait un bout de route ensemble avec Warthog, et il y avait des moments où je me disais, putain, il va se prendre le poteau. Et en fait, non. C'est très très bizarre. On se dit, il va se manger le mur. Non, il se mange pas le mur. La bagnole sur la voie de bus que t'as dû dépasser, là, qui était,
ouais.
Pas accidentée, mais ouais, en panne. Ouais. Il y a une bagnole en panne avec le triangle à l'arrière. Je l'ai vu passer, je dis, oh, putain, il va se faire la carrosserie. Non, il est passé. C'est vraiment impressionnant. Voilà.
C'est pas si large que ça, en fait.
Ouais. Pardon.
Ok. Non, mais c'est intéressant parce que.
C'est bon, mangez-en.
Voilà. Pour les cargos à trois roues, c'est à peu près tout. Après, voilà, il y a les cargos à quatre roues, comme on a vu de chez Materna.
Ouais.
Donc là, c'est DHL aussi qui a des systèmes de cargo où ils peuvent charger directement les containers, les petits containers de distribution locale.
D'accord. Très honnêtement, j'ai vu du biporteur, j'ai vu du triporteur, mais alors du quadriporteur, j'ai vu.
Moi, le seul truc que j'ai vu à 4 roues, on en parlait avant, c'est les Rosalie au Parc de la Tête d'Or.
C'est ça, pareil.
Alors moi, les seuls que j'ai vus, ça a été au Paris Cargo Bike Meeting.
Ouais.
D'accord.
J'en ai jamais croisé dans la rue.
Mm. Oui, parce que des DHL à 3 roues, j'en croise régulièrement, ouais, mais à 4, je n'en ai jamais vu.
Non, à 4 roues, j'en ai vu au Paris Cargo Bike Meeting, et puis après, c'est dans des vidéos.
C'est TNT plutôt, les triporteurs
ouais,
de livraison.
Ouais, peut-être, je ne sais plus.
Bref, pardon, je digresse encore.
Mais voilà, il y a DHL notamment qui a des quadriporteurs qui permettent justement de mettre des containers.
D'accord.
Donc, avec un système de charge de trucs de caisses standardisées.
Avec une petite grue, en fait, comme.
Non, c'est avec un plateau. Avec
un transpal intégré, non,
quasiment. Ouais, une sorte de transpal intégré, voilà.
Ils ont repris le principe, en fait, du container bateau-camion,
ouais,
quoi.
Ouais. Exactement.
Ouais, c'est une très bonne idée.
Donc, voilà, on va dire que je vais m'arrêter là sur la catégorie des cargos.
On les a déjà suffisamment traités en largeur en travers dans le cyclocast, mais.
Est-ce qu'il y a un seul épisode où on n'a pas parlé de cargo?
J'aimerais savoir, effectivement. Mais bon. Donc, parle-nous. Bon. Viens au vif du sujet, parle-nous des trucs zarbi chelous, fais-nous rêver.
Alors,
vas-y.
Déjà, bon, on va commencer dans les trucs un peu plus. Pas trop zarbi encore. Je sais pas par lequel je commence. Allez, les tandems.
Si, il y a un truc dont tu parles pas, c'est le school bus.
Ouais.
Il y a 4 roues.
Oui.
Mais il y a je sais pas combien de pédaliers par contre.
C'est les cyclobus là. Et
ouais, c'est les cyclobus ouais, où il y a. Tu peux caler. Je crois que c'est 12 gamins.
10 ou 12 gamins, ouais.
Et du coup, c'est un truc à 4 roues. Uh-huh. Ça pèse ultra lourd, hein, ça doit faire 200 kilos, un truc comme ça. Il y a une assistance électrique. Et du coup, t'as un conducteur devant et 12 gamins. Mais chaque môme a un pédalier pour participer à l'effort commun.
D'accord.
School bus, ça s'appelle. Je crois qu'il y en a un à Rouen de mémoire.
Je sais plus, mais il y a quelques villes.
Nantes, un truc dans l'ouest.
Dans l'ouest, parce que
il me semble.
Dans l'est, il me semblait, mais bon.
On va chercher. On en a pas déjà parlé.
Si, je pense. Si, si.
Et c'est pas le, c'est pas le, le même principe que le vélobus qu'il y avait à la convergence de Lyon cette année.
J'y étais pas.
Il y avait.
Oui, spécialiste du podcast, du vélo, convergence. J'étais pas. Je pouvais pas.
Moi, c'était la, c'est la première fois en je sais pas combien d'années que j'ai fait péter le. La convergence parce que j'étais au médiéval de Pérouge. Voilà, merde.
Bon, donc sinon, donc il y a les tandems. Donc le tandem classique pour n'est pas encore trop.
Ah, j'en ai aussi maintenant. Ouais.
Donc un tandem classique, une personne devant, une derrière. Alors après, il y a des variantes, il y a les triplettes.
C'est moi, je t'ai fait.
Les triplettes et les quadruplettes.
Ouais.
Donc pour 3, 4 personnes, voire plus, parce que ça existe, je ne sais pas si ça existe au-delà de la quadruplette.
Après, ça fait une sacrée longueur quand même, ouais. En termes de tube, ouais, faut...
il ouais, faut y aller. Hein. Alors, je pense qu'il y en a qui ont dû bien dû tester au moins 5. Mais bon, on reste encore dans une géographie, une géométrie...
Oui,
et
c'est juste un vélo avec une selle en plus. Il est bizarre, ride pédalier.
Il y a quelques
sinon,
tubes
ça...
pour renforcer et puis voilà, ouais, les pédaliers.
Ouais, non, mais globalement, c'est pas. Ça reste un vélo, quoi. Même à rouler, j'étais assez surpris. Bon, je suis habitué au long tail aussi, il faut dire, mais ça reste un vélo.
Oui. Alors après, on a les tandems parallèles.
Mm-hmm.
Les Rosalie. Enfin, non, pas les Rosalie, alors... mais en fait, t'as.
Oui, ça se rapproche d'une Rosalie. D'une Rosalie. Alors ça dépend. Parce que t'as deux variantes, à deux ou à quatre roues.
Les tandems parallèles à deux roues.
Oui.
Ouais.
Les roues sont où?
Au milieu.
Au milieu. T'as intérêt à avoir sensiblement le même poids.
Putain,
avoir un bon équilibre bien se connaître. Ouais.
À mon avis, question casse-gueule.
Ah, ça doit être.
Non, et c'était
comment
quoi,
tu tournes?
C'était quoi le nom? C'était les le sociable ou un truc comme ça?
C'est le pizza bike, non? Tu dois te foutre la gueule par terre en 10 mètres.
Mais c'est notre copain vélociste, enfin ex-vélociste Fabrice.
Fabrice, tout à fait.
Qui en a un, enfin qui s'est soudé. En fait, il a pris deux vélos qu'il a soudés ensemble.
Et il roule avec sa femme.
Et il roule avec sa femme. Et avec une barre au milieu sur laquelle il mettait le siège enfant. Donc, tu avais la gamine qui était sur le siège.
Ah, il a confiance.
Le siège à Max.
Ok.
Et il roule.
Ah, non, mais.
Ils ont fait une convergence avec.
Ah, hein. Non, mais j'avoue, je suis curieux. En ligne droite, mais putain, pour tourner.
Ils sont bien
coordonnés.
Et puis ils sont bien rapprochés.
Ouais, mais même. Enfin, je veux dire, un vélo droit, normal, ça se conduit quand même beaucoup avec les fesses, quoi. Tu fais pas mal de transfert de poids avec le bassin et tout. Là, si t'es chacun de ton côté,
Si
tu t'engueules un peu, tu veux partir chacun de ton côté, c'est mort, quoi.
C'est mauvais, quoi. Le plus drôle, c'est que figure-toi,
t'avais les deux guidons qui étaient reliés à, enfin les fourches étaient reliées par une barre de,
ouais,
de
d'accord,
solidarisé,
okay.
Et chacun des deux guidons tournait les deux roues.
Voilà.
Avant et arrière.
Non, les deux roues avant.
Tu m'as dit qu'il y avait que deux roues.
Non. Celui de Fabrice,
il en a quatre.
À celui de Fabrice, il y avait quatre roues. Oui.
Ah, je me souvenais de roues, moi, mais.
Non. Mais il a existé, ou il existe des versions à deux roues.
Ouais, il existe des versions à deux roues.
Mais voilà, moi, c'est ça qui me fait flipper. Oui, non, si t'as quatre roues, bon, oui. tu peux pas tomber. C'est déjà, enfin, voilà.
Non, c'est difficile.
C'est plus compliqué, faut le faire exprès.
Ouais. Mais je te rassure, je pense que là, je vais finir de te vriller le cerveau. Ce qui existe, ce sont les monocycles tandem. Il y a des mecs qui en ont fabriqué un. Hein.
Les monocycles tandem.
Oui.
Je pense que j'ai mon cerveau qui coule par une oreille. Les monocycles tandem. Il y a deux pédaliers.
Les mecs, ils ont réussi à faire 100
mètres. Il y a une seule roue.
Ouais. Et les mecs, ils ont réussi à faire 100 mètres en s'entraînant toute une journée.
Le Darwin Award en puissance, quoi. Les monocycles tandem.
Ouais.
Ok.
Bon. Alors, je vais terminer la catégorie tandem en faisant la liaison avec la catégorie suivante. Le Pinoise.
Ah, merci. Oui. Ah oui, celui-là.
Le plus beau tandem qu'on puisse trouver.
Ah purée, moi, il
fait ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais essayer.
Ouais,
c'est
moi aussi.
Un vélo, un tandem couché assis. C'est-à-dire que le stroker est à l'avant, en position couchée.
Mmh.
Donc sur un transat de type vélo couché, avec un pédalier.
Alors le stoker sur un tandem normal, c'est le gars qui est derrière.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il n'a pas de direction.
C'est celui qui ne dirige
que pédaler. En général, on le choisit plutôt grand pour qu'il puisse voir et il lui faut de la patate. Enfin, en compète, en tout cas, c'est souvent comme ça.
D'accord.
Et devant, c'est le captain.
Et donc là, le capitaine est donc sur une partie de vélo droite.
Ouais.
Donc elle a le guidon, elle a les commandes de vitesse.
À l'arrière du.
Imaginez à l'arrière.
Un bullet, sauf que au lieu d'avoir la caisse surélevée, il y a le siège d'un vélo couché, d'un trike en gros.
Voilà.
À peu près.
Et c'est le gars derrière qui gère la direction. Le gars de devant, ou la meuf, hein, après on n'est pas. Mettez qui vous voulez. La personne devant ne fait que pédaler.
Ou prendre des photos. Pioncer et prendre des photos aussi, c'est alors, possible.
C'est aussi apprécié justement en famille avec des enfants qui commencent à pédaler mais qui n'ont pas l'endurance pour tenir toute la journée. Ouais. Parce que bah, voilà, l'enfant peut ne pas pédaler en permanence. Et il est assis, donc il ne va pas se casser la gueule non plus de la selle.
Et on a un couple d'amis qui en ont un, qui est d'ailleurs un proto en acier. C'est pas un alu, alors que la plupart maintenant c'est en alu. Et qui s'amuse à tracter la remorque avec les mioches. Avec, bah oui, maintenant les, puisqu'ils sont deux, les mioches derrière. Voilà, c'est. Oui.
Après, un tandem, si les deux pédalent, il y a du watt quoi. Ça...
Ouais, mais en malgré tout, en montée, le poids pèse plus lourd que les watts que tu envoies.
Il y a du watt, mais ça. Comment dire. Une merde. Un couple, paradoxalement, le tandem, ça n'a pas un bon couple.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, je peux dire qu'en côte, il le sentait pas.
Oui,
d'ailleurs,
oui, oui.
D'ailleurs, j'ai vu une adaptation de Pinoise avec le stalker qui est en handbike. Donc pour une personne handicapée.
D'accord. Donc la personne devant ne pédale pas avec les pieds.
Ne pédale pas.
Azé, alors ce qu'il faut savoir c'est que Pino c'est le modèle et Azé c'est la marque. Azé, ils sont spécialistes justement
dans
comme Maderna. Et puis comme Maderna de vélo d'adaptation.
Oui.
C'est pour ça qu'ils ont du handbike aussi. Ouais.
Donc là voilà, j'ai vu récemment une adaptation avec l'avant en handbike.
C'est d'accord. Cool,
et là, je trouve ça super, super cool parce que.
Azé, d'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser qui nous écoutent, Azé, ils sont aussi spécialistes pour les pédaliers qui ont des manivelles de tailles différentes, dissymétriques pour les personnes qui ont des problèmes de jambes, des jambes plus courtes, etc. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un pédalier adapté parce que vous avez une papatte plus courte que l'autre, etc., vous avez eu un accident, etc., contactez-les. C'est pas donné, mais ils vous font des choses au millimètre près. Ils peuvent vous adapter des trucs vraiment formidables.
Voilà. Je savais pas que ça existait, ça.
Si, si. Azé, tu fais ça.
Donc, je vais continuer dans mes différentes catégories de vélos spéciaux. Donc, passer sur la catégorie des vélos couchés.
Feignasse.
Donc, on va voir principalement trois sous-catégories. Le couché classique avec deux roues, le tricycle, le trike,
le développé couché,
et puis le vélo mobile.
Ouais.
Donc, qui sont, à part quelques-uns de compétition qui sont des trikes, tous, certains sont des.
Oh, non! Le dernier que j'ai croisé, moi, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a ça sur Lyon. Je l'ai croisé sur la piste du T3 à hauteur de Villeurbanne, vers les studios Pixel, là, machin.
Ouais.
C'était un couché de roue rouge.
Ça devait être un mec qui s'entraînait pour faire de la compète.
Je ne sais pas.
Bah, le problème, c'est que si tu es caréné, tu ne peux pas toujours mettre les pieds par terre.
Je sais pas, là, il était retourné, il était en train de pomper parce qu'il venait de réparer sa crevaison. Alors, je sais pas, il avait les deux pieds par terre, mais...
Je ne saurais savoir.
Je pourrais pas te dire non plus, mais ouais, c'est étonnant.
Mais voilà, en général, les vélos mobiles, c'est trois roues, justement parce que, comme t'es caréné pour l'aérodynamique...
Ouais, tu peux pas poser le pied par terre.
Tu peux pas mettre le pied par terre.
D'accord.
Donc voilà, t'as des versions qui sont à deux roues, mais parce que t'as une assistance pour te tenir au départ et à l'arrêt.
Ouais. Barbara but à toi.
Non, elle est sur un tricycle, elle.
C'est un tricycle ? Je crois que c'est un double.
La championne du monde de vitesse, là,
oui. Qui a conservé son titre au dernier championnat, c'est aux États-Unis, là, il y a quelques semaines. Enfin, elle n'a pas remporté à nouveau de nouveaux titres, mais
elle ne s'est pas fait
prendre son record.
Bravo, madame.
Donc, alors, pour expliquer un petit peu, donc, le vélo couché, c'est un vélo où on n'est pas assis sur une selle, mais on est plutôt comme dans un transat, et on pédale avec les pieds en avant. C'est très confortable. Il y a un moins bon rendement dans les montées.
C'est le même principe que le tandem. En fait, il y a une bonne puissance, mais il n'y a pas de couple.
Mais c'est voilà, quand on a de la grande distance à faire avec peu de montées, c'est très très efficace. Et donc, il y a les variantes à deux ou trois roues. Donc, les trikes Parce que dans cette position, la question de l'équilibre est parfois plus complexe. Enfin, ça demande un peu plus d'adaptation.
Après, il y a des vélos couchés hauts et des vélos couchés bas.
Oui, ce qu'on appelle les low riders.
Ouais, les vélos couchés hauts, c'est vrai que redémarrer là-dessus,
c'est compliqué.
Il faut un petit peu d'expérience, je pense. Ouais.
Mais même sur les low riders. Les low riders, disons qu'il y a moins de, t'as moins d'hésitation parce que comme tu es bas, t'as moins peur de te casser la gueule.
Voilà, tu sais que t'auras moins mal.
Voilà.
Et donc les vélos mobiles, c'est des vélos couchés qui sont entièrement ou majoritairement carénés,
ouais,
pour avoir une meilleure aérodynamique.
Et surtout la structure au moins sur les tout récents, la structure est autoportée, c'est-à-dire que le cadre, il est toujours là, mais s'il y avait pas le carénage, ça serait pas suffisant pour porter les contraintes et l'ensemble de l'équipement. La structure est autoportée, la structure est tenue entre autres par la carrosserie.
D'accord.
J'ai pas compris.
En gros, c'est la structure qui assure
autoportée, la rigidité. J'ai compris. Ah d'accord, ça veut dire que sans la structure, en fait, tu peux pas rouler le vélo.
Il y a pas le cadre fait juste tenir en place les roues.
D'accord.
N'assure pas la rigidité.
C'est donc une super structure.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme on met une carrosserie et qu'elle est un peu rigide, bah du coup on s'est dit ok, on peut affiner les tubes du cadre. Donc on a affiné les tubes du cadre. Si on retire la carrosserie, tout se pète la gueule.
J'ai compris.
Voilà, en exagérant. Voilà. T'étais en train de parler de l'équipe.
Ouais,
j'essaie de raccrocher les wagons, etc. C'est pas grave. Laisse tomber.
Non, moi c'est. Donc voilà pour la catégorie couchée. Si,
ça y est, je me rappelle. Les trikes avec deux roues avant, eux ont un problème. Ça, c'est un truc à savoir.
T'as les problèmes de parallélisme.
Oui, non, je pensais au freinage, en fait. Le gros souci, c'est qu'en fait, dans la loi française, on sait qu'on doit avoir deux systèmes de freins indépendants agissant sur des roues différentes. Mais les trikes, on pourrait très bien imaginer un frein combiné sur les deux roues avant et un frein sur les roues arrière.
Ce que j'aime moins sur mon triporteur, qui marche très bien.
Ce qui se fait généralement sur les freins des triporteurs.
Tout à fait. Sauf que sur les trikes, le poids est dispensé différemment. Et le freinage arrière est assez peu efficace. C'est des couchistes qui m'ont expliqué. Hein, voilà, je les crois. Je veux dire, ils roulent dessus, moi pas. Oui, on dit des couchistes, tout à fait. Et voilà. Alors, ils m'ont dit, ça sert à que dalle, tu t'arrêtes pas. Les seuls qui ont ça, c'est ceux qui s'en servent pour faire du flat, c'est-à-dire de faire de l'acrobatie au sol. Oui, parce qu'il y a des mecs qui font des figures avec
des gens qui font de l'acrobatie sur des trikes
au sol.
Ok. Il faut que je trouve des vidéos YouTube de ça.
Oui, je pense que ça vaudrait le coup. Voilà. Mais du coup, le frein arrière effectivement permet de faire des petites fioritures, etc. Mais du coup, la plupart sont équipés de... Donc, comme il faut avoir deux freins indépendants, et ben, ils mettent un frein à gauche, un frein à droite. Et ça a un système qui est pervers quand tu essaies de faire des courses avec eux.
Ils sont indépendants.
Indépendants.
Donc, ça veut dire que c'est à toi de doser le freinage.
Et le truc, c'est que...
En virage, ça doit être d'une...
T'as tout compris.
Mais parce que le principe de deux roues parallèles quand ça tourne, c'est qu'elles vont pas à la même vitesse, en fait. C'est pour ça qu'il y a un différentiel sur les bagnoles.
Voilà, j'ai déjà fait la course avec un pote. Moi, j'étais en vélo droit classique. Lui, il était en trike avec deux roues avant.
Ouais, ouais.
Et arrivé... Donc moi, j'ai failli me prendre une plaque de goudron et me mettre une boîte à 30 km/h. J'aurais été content du voyage. Et derrière, lui... pour prendre le virage au moment où on doit rentrer dans notre rue, il devait tourner à droite, il serre tout à droite, il tourne le guidon, les roues tournent, sur des rails quoi. Il a tourné immédiatement. Moi j'ai dû freiner comme un gros porc et il m'a mis 200 mètres dans la vue, c'était fini quoi. Donc ça c'est très très efficace. Voilà, c'est le petit détail sur
quand tu sais t'en servir, parce que sinon je pense que c'est le meilleur moyen de se foutre en l'air en freinant que d'un côté et autour d'une roue.
Il avait une certaine expérience, on est d'accord.
Dernier détail sur les vélos couchés, on peut aussi avoir des vélos couchés tandem.
Oui, c'est vrai.
Donc deux personnes couchées.
Voilà.
Ça s'appelle un lit.
Oui. Non.
Ça m'appelle Gaston et son lit.
Oui, alors là, ils sont l'un derrière l'autre. Hein.
Ce qu'ils veulent dedans. Hein. Mais...
C'est superposé les lits, on n'est pas côte à côte. Normalement, c'est n'importe quoi.
C'est long, c'est très très long.
Bah, tu m'étonnes, ouais. Déjà, un tandem, c'est long. Alors, un tandem couché.
J'ai des copains qui en ont un. Quand on est sorti se faire une balade une fois avec eux une remorque derrière leur tandem, moi
ça s'appelle un TER,
mon fils en follow me derrière le Bullitt. Je veux dire que les gens ne savaient pas quel vélo regarder et se dire c'est lequel le plus bizarre.
C'est le freak show, en fait. Bonjour, on fait un concours de celui qui aura le plus qu'on connaît pas. Est-ce que tu arrives à jongler en même temps avec des tronçonneuses enflammées?
Et ce soir au cirque.
Moi, je me baladerai avec le long tail derrière. Je mettrai une otarie avec un ballon qui tourne son pif.
Bon, très bien enchaînement. On va parler maintenant des vélos girafes pour rester dans les animaux.
Ah bah oui.
Ah, c'est ce qu'on appelle les tall bikes.
Les tall bikes.
D'accord.
Donc vélo girafe en français.
Mm-hmm. Ah, c'est pas mal. Donc il peut pas bailler.
C'est ça.
Il peut pas. Girafe, c'est le seul animal qui ne sait pas bailler. Enfin, le seul mammifère qui ne sait pas bailler. Mais on sait pas pourquoi.
Mm. De toute façon, dès qu'il y a un animal qui a besoin d'être une exception, c'est la girafe.
Ou le kangourou.
Ou le rat.
Ou l'ornithorynque.
Aussi. Pas un animal, ça.
Ça, c'est une blague. La nature, elle était bourrée quand elle l'a faite.
C'est ça. Ah, regarde, il me reste des pièces. Qu'est-ce que je... Elle a fait ou un vélo Mardoura ou un ornithorynque.
Ah, voilà, le Mardoura, c'est l'ornithorynque des vélos, en fait, j'ai trouvé.
Le Maderna, tu
veux. Le Maderna, oui, pardon. Voilà.
Donc, alors, les vélos girafes, c'est quoi? Bah, c'est les vélos artisanaux, en général. Je n'ai jamais vu de catalogue de vélos girafes.
Je connais pas de marque.
Je crois que c'est exclusivement artisanal, oui.
Si, dans le cirque, en monocycle. Je sais pas dans quelle mesure c'est...
C'est pas une girafe, c'est conçu pour.
Oui, mais... Mm. Enfin, le monocycle qui fait 3 mètres de haut...
C'est un monocycle, c'est pas un vélo. C'est pas exactement un vélo.
Ouais. Bon. Voilà. Mais donc, voilà, les vélos girafes, donc en général, c'est des vélos où on a assemblé plusieurs cadres pour les superposer, juste pour faire le con.
Et ce qui me fout le vertige, mais tu as parfaitement raison, c'est le fait que tu dises plusieurs, pas deux.
Ouais,
c'est
voilà,
quand
ouais,
c'est qui en
ouais,
met trois ou quatre.
Ouais,
voilà.
Il y a des gars qui se retrouvent.
Ça commence à deux,
quatre, voire... cinq, six mètres de haut sur un ouais, vélo. Oui. Alors je vois bien comment ils montent, je comprends toujours pas comment ils descendent, mais c'est pas grave.
De la même façon, ils s'arrêtent contre un mur.
Ouais, voilà. Ouais.
L'avantage, voilà, c'est ça, c'est que l'avantage d'un vélo aussi grand, c'est que ça te sert d'échelle.
Oui.
Le cadre te sert d'échelle.
Oui.
Mais par contre, dans les vélos russiens où les mecs sont avec des vélos girafes qui font 5-6 mètres de haut,
les ponts
et les intersections. Les intersections. Ouais. Faire du track stand quand t'es à 5 mètres de haut,
c'est chaud.
C'est très très chaud. Et puis voilà, t'as pas forcément de poteaux, de trucs sur lesquels t'appuyer pour t'arrêter. Donc,
j'ose même pas imaginer l'équilibre qu'il faut avoir là-dessus. Quoi.
Mais alors, par contre, juste 5 mètres de haut, il y a des. Je pense à un truc complètement con. Hein. Il y a des câbles de frein qui font 5 mètres de long.
Je sais pas comment ils font.
Des relais. Je pense qu'il doit y avoir des relais parce que. Ou alors peut-être que.
En pignon fixe.
J'avais pas envisagé cette
possibilité. Ils sont déjà suffisamment cons pour monter à 5 mètres de haut. Il n'y a peut-être pas de frein. Hein. Ou alors un pignon fixe, comme dit Grinchot. Mais honnêtement, les plus longs câbles que j'ai pu trouver pour
ça fait 3 mètres hein, maximum un câble de frein.
Du 2,50, du 2,80 et j'ai entendu parler de 3 voilà. Pour la rénovation de cargo et de tandem, mais c'est le max.
Des câbles de frein de tandem, ça fait 2. Ouais, alors, c'est de 2,50.
Après, il existe des relais, tu peux faire des relais, tu mets plusieurs câbles en fait, ouais. Et tu mets des relais avec.
D'accord.
Alors, donc sinon, il y a quand même des mecs qui font de la rando en tall bike.
J'ai vu des gars qui faisaient de la rando en monocycle, tu sais. Mmh.
Oui.
Alors, ah, le gars, si... bah, par contre,
alors,
sur
t'as
YouTube,
t'as un avantage.
Le gars, il fait une vidéo de tallbike, il met quand même The Future is Now, hein.
Oui, non, mais alors, t'as quand même un gros avantage, c'est que t'as plus de cadres, donc t'as plus d'endroits pour mettre des sacoches.
Oh putain, le bourrin. Au secours.
Je suis en train de leur mettre une petite vidéo justement de.
Attends, je vais voir ça.
Tallbike en rando.
Ah, mais les gars, ils vont dans la forêt en fait.
Oui, dans la forêt.
C'est des Québécois, non?
Non, c'est des Américains.
Bon attends, barbe, bonne à l'intérieur, chemise à carreaux, on est sur du bon hipster déjà.
Mais ils font du gravel, avec 4 tall bikes.
Bon, ils sont grands, mais ils doivent faire 2 mètres, quoi.
Ouais, ils font 1m80, mais bon, ils galèrent quand même.
Ah bah, tu m'étonnes, tu t'arrêtes, ils sont au milieu de la forêt, il n'y a pas de mur pour un...
Bah, il y a les arbres.
Ouais, il y a les arbres, mais enfin bon...
Ah, ils ont des bonnes gueules de hipster.
Tu me repartageras ça sur mon Facebook. Il y a 2-3 personnes qui faut que je montre ça, ils me croiront pas.
Ah, c'est Tall Bikes Chapter 6 quand même. Hein. C'est pas la première qu'ils font.
Il y en a 5 autres derrière.
5 autres avant, ils en ont peut-être fait un autre après.
Ah putain. En fait, c'est marrant parce que effectivement, ils sont pas très hauts.
C'est un cadavre de vache, quand même.
Ils étaient en train de
moutons, de moutons.
En train de foutre une colonne vertébrale et un crâne dans.
Il faut que tu mettes aussi en lien du billet ce truc-là, c'est assez improbable.
Carrément, ouais.
Leurs vélos, en fait, ont pas l'air très hauts, et dans la forme, moi, me font plutôt penser à du... vaguement, comme c'est une forme pyramidale, à un Pedersen.
C'est vrai. Globalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un cadre et ils ont rallongé les...
Ils ont emboîté deux cadres, en fait, non ?
Ça dépend.
Ça dépend lesquels. Il y a plusieurs modèles, là, visiblement.
Oui.
Mais ouais, effectivement, on est sur du gros délire de hipster. Ils sont complètement fous, mais je les aime bien. C'est des fous dans le bon sens, en fait. Bon, merci pour la découverte, Grincheux. Ça, c'est assez étonnant.
Mais attends. Reste là, il y avait celui-là aussi.
Oula. Ouais, enfin...
Donc ça, c'est un des plus hauts.
Je l'ai déjà vu, celle-là.
Oui, il a du mal à passer sous le pont, c'est lui.
Voilà. 14 pieds...
14,5 pieds de haut.
Donc ça veut dire 5 mètres.
Voilà.
Alors, là, en effet,
il n'a pas de frein.
Non, il n'a pas de frein, c'est bien ça, on a vérifié, voilà.
Putain, c'est une vidéo en mode POV, là. Il a la GoPro sur le harnais ou sur le casque. Je pense, vu la position des mains.
Il s'engage dans un croisement, donc t'as les flics qui bloquent la rue.
Oh, cette flip.
Ouais, celle-là, Grincheux, tu le remets aussi dans le billet. C'est assez improbable.
C'est
franchement
celle-là que j'avais vu.
Allez la voir.
Je crois qu'il y a un moment où il galère parce qu'il passe pas sous un feu rouge, le gars.
Sous un pont.
Et c'est à Los Angeles.
Mais surtout, il est un...
Voilà, bah, le pont arrive là.
Voilà, le pont arrive et là, le mec, il va baisser la tête. Voilà. Hop, là, il arrive.
Mais surtout, t'es en pleine vélorution avec plein de monde autour.
Oui, mais il faut, parce qu'en fait, si tu tombes, il faut d'autres cyclistes pour amortir la chute.
Ouais.
Je vois que ça.
Le problème, c'est que tu tombes 5 mètres plus loin.
The ceiling keep getting lower. Le
plafond redescend.
Voilà. Et
le pont, le plafond n'est pas à la hauteur.
Le mec, il est bien passé au milieu de la route parce que s'il allait sur le bord, il passait plus.
Il restait de 2 pouces, donc 5 centimètres.
Alors, autant il y a des trucs que j'ai envie d'essayer, autant ça, non.
Celui-là, non.
Ou alors avec un parachute, quoi. Vous voyez, des...
Ouais, parce que là, s'il se pète la gueule, il a mal.
T'as dit combien ? 5 mètres de haut ?
5 mètres, ouais.
5 mètres de haut, tu te casses la gueule de 5 mètres de haut ? Bah...
Là, c'est le toit d'une maison, moi.
C'est ça.
Voilà. Et il est...
J'habite au rez-de-chaussée, c'est pas bon pour monter sur un truc comme ça.
Et tu vois, il y a des tall bikes à côté, ils ne font qu'un mètre 80, les tall bikes, ils paraissent ridicules.
Effectivement, il y a des tall... Et c'est maintenant que tu le dis, moi je pensais que c'était des vélos normaux, effectivement, c'est des tall bikes. Non, elle est à voir, c'est
non,
du collector.
C'est tellement haut que je pense qu'il y a de la latence dans la direction, c'est-à-dire que le temps qu'il tourne le guidon, forcément physiquement avant que ça tourne la roue.
Non, j'imagine s'il raye une carrosserie et que le mec se retourne, ah, toc, mais il est où ?
Il est où ?
Bon, ok. Donc voilà pour les vélos girafes.
Les vélos girafes, okay. c'est une curiosité, c'est à voir.
Alors, en dernière catégorie, je vais vous parler justement des vélos hors catégorie.
Ah, parce que déjà, ça, c'était pas...
Ouais.
Ouais, non, mais...
Parce qu'il y a même du Zarbi dans le What the Fuck.
Voilà. Et encore, ça, c'est uniquement ce que j'ai trouvé. Donc, déjà, je vais commencer par un des premiers vélos. Mogor en avait parlé, il me semble que c'était elle qui en avait parlé dans un des premiers épisodes. Mm-hmm. Un mec qui avait fait une expérience sur la direction inversée.
Oui.
Oui, tout à fait.
C'est pas le gars de Smarter Everyday ?
Peut-être. Si, c'est lui.
Il me semble.
C'est lui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'effectivement, sur les réseaux, il est en train de... Sa vidéo ressort. C'est-à-dire qu'elle est sortie il y a déjà plusieurs années et elle revient.
Donc, c'est un vélo qui, d'apparence, n'est pas un vélo bizarre, mais par contre, en comportement, c'est du complètement what the fuck.
C'est-à-dire qu'il a mis une crémaillère sur la direction et du coup, quand on tourne le guidon à gauche, eh ben, le vélo va à droite.
C'est ça.
L'expérience était intéressante parce que du coup, lui essaye. Il dit que c'est une histoire de câblage dans le cerveau parce qu'il a un certain âge, il a appris à faire du vélo d'une certaine manière quand il était petit, donc il a du mal à s'adapter à ça.
À désapprendre.
Exactement, à désapprendre le comportement de vélo normal. Mais et son fils qui est jeune, qui a
12 ans, tout
comme ça. Lui s'adapte beaucoup, beaucoup plus vite.
Voilà. Mais par contre, quand il a réussi à s'adapter à ce vélo, revenir sur un vélo normal.
Voilà, il savait plus faire du vélo normal.
Ce qui se passe, c'est que lui, ça lui a pris pas loin de 6 mois pour pouvoir faire une balade de quelques dizaines de kilomètres dans la campagne avec. Parce qu'il ne roulait qu'avec celui-là. Son fils, ça lui a pris une après-midi, voilà, à peine, pour pouvoir rouler avec.
Le plus rigolo, je crois, c'est qu'il faisait des espèces, pas des TED Talks, mais des trucs existants,
oui,
où il amenait le vélo, il prenait quelqu'un dans le public, il lui disait « Je te donne $500 si t'arrives à traverser la Seine avec ce vélo. »
Sans te casser la gueule.
Ça n'est jamais arrivé.
Exactement. Et par contre, le plus drôle, ouais, tu disais qu'il, après, il a voulu tester...
C'était parce qu'il faisait un voyage à Amsterdam ou Copenhague. Ouais. Voilà. Il a voulu louer un vélo et les gens pensaient qu'il faisait exprès de se...
Oui, voilà. Il savait plus servir d'un vélo
parce
normal.
Il savait plus pédaler, il se cassait la gueule.
Il avait donné rendez-vous aux followers de Spartan Everyday et ils lui ont dit, tu te fous de notre gueule. Il dit, non, j'y arrive vraiment pas. Mais par contre, ça lui a pris 20 minutes pour reprendre la main.
Oui, parce que après, oui, le câblage du cerveau, il est quand même ancien.
Le câblage profond, c'est ça.
Voilà, c'est quand même revenu.
C'est revenu, mais ça a pris du temps.
Voilà, donc, alors, autre vélo bizarre, non classifiable, mm-hmm, les vélos désarticulés.
Ah oui,
donc,
ce dont on parlait
tout à l'heure, les Trocadéro Fixie.
Ce que j'appelle moi les simulateurs de vélos bourrés, donc.
Oui, donc en gros, c'est des vélos qui sont avec un... Avec le cadre qui est articulé entre la potence et le, enfin, entre la potence et le cadre, il y a une articulation.
Voilà. Donc en fait, la roue avant et la roue arrière ne sont pas forcément dans le même plan longitudinal.
Exactement. Donc
là, c'est des hipsters de chez nous, par contre.
Ça, c'est des hipsters de chez nous. De toute façon, Trocadéro. Donc, bah, tiens, petite vidéo de promo. Donc, t'as un vélo. Si tu tiens,
je me relève et je repasse du côté de.
Ouais, je pense que ça ressemble. Au niveau de la fesse, ça doit être bizarre quand même. Hein.
Ouais. Surtout, tu dois avoir l'impression que il part en couille.
Ouais.
Mais
ouais.
Vous avez remarqué que quand même Warthog est quand même très très touchy au niveau de la fesse. Hein, ça...
Oui, c'est un organe important chez moi.
Ouais. Ah là là, oui, d'accord, ok. Oh purée.
Donc en fait, ouais, voilà. Imaginez que juste derrière votre potence,
mon cadre il est mou.
Les deux tubes de voilà, les deux tubes du cadre en fait pivotent. Et la transmission, elle ne change pas. Hein, on pédale normalement, simplement quand on tourne. Bah vous allez avoir l'arrière qui va chasser du côté opposé où vous tournez.
Très exactement. Le triangle arrière par rapport à la partie avant du vélo effectue ce qu'en termes d'aviation, on appellerait du roulis.
Exactement, c'est du roulis.
C'est du roulis.
C'est ce qui file le vomi en avion.
Ouais. c'est ce qu'on a tendance à appeler chez les amateurs de long tail. Et là, je pense à notre copain Shimoun, qui utilise le même terme que moi. On dit que l'arrière saucissonne. C'est...
Ouais. En skate, on appelle ça du wobble, mais c'est un peu le même principe.
Ouais. En gros, ton cadre est mou, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est clair qu'en termes de rigidité, on a des détails, on sait comment ils ont fait le.
Non.
Ils ont juste scié un cadre et foutu une rotule, quoi.
Ouais. Je pense que ça doit être ça. Et alors, surtout, déjà, je pense qu'un coureur pro qui a l'habitude, justement, d'utiliser une déformation de ce genre sur un cadre rigide pour avoir une restitution d'énergie plus grande.
Ah bah lui il fait 2 mètres.
Déjà ouais, ça doit les faire hurler. Et rien que pour moi là, je suis en train d'imaginer ce que leurs hanches doivent prendre,
ouais,
pour tenir le vélo.
Non mais ils sont jeunes.
Et puis l'articulation, les contraintes qu'elles se prennent dans la gueule, parce que t'as un seul point qui se
prend. Par contre, quand tu freines, ça doit être tellement un bordel. Tu vas voir la roue arrière qui essaie de passer devant la roue avant là. Oh là 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 là.
Voilà.
Par contre, ce qui est cool, c'est que vu qu'ils font plein de grands mouvements, on peut être sûr d'une chose, c'est que leurs pneus sont bien usés partout pareil.
Ils ont pas de pneus de moteur parisien tout carré.
Et alors,
ouais, c'est vrai que ça, j'avoue que c'était bien bizarre quand même.
Pour terminer, je vais vous parler d'une autre bizarrerie que j'ai croisée, qui roule.
Tu l'as croisée?
Oui.
Et pourtant, il roule.
Le Sideway Bike.
T'as vu ça, l'horreur que tu nous as montré là?
Ouais, je l'ai vu.
Du coup, t'as fait un bûcher dans la foulée ou pas? Parce que ça.
Pardon?
T'as fait un bûcher dans la foulée? Parce que franchement.
Non, mais le mec. Bon, c'est un anglais.
Bah voilà, déjà, c'est un anglais, on fait un bûcher. Enfin, je veux dire, c'est.
Donc, vous prenez deux roues avant.
Vous prenez une trottinette.
Vous assemblez les deux roues avant. Et au milieu, vous asseyez comme sur un skateboard, perpendiculaire à la dernière.
S'asseoir sur un skateboard.
Oui, parce qu'il y a une selle.
Mais...
Ah, il y a une selle sous le monsieur?
Oui, il y a une selle.
En gros, le gars n'est pas dans le sens de la marche.
Donc, c'est le sideways bike.
Donc, il a un pédalier, mais il a son épaule droite qui va dans le sens de la marche.
J'ai rencontré donc Michael, le concepteur et créateur de cet engin.
Donc, il est régulier en fait.
Je sais pas quel pied il pousse.
Je sais pas s'il est goofy ou régulier.
Non, il est goofy là. Si je parle en termes de position, il est goofy. Régulier, il serait dans l'autre sens.
D'accord.
Et en fait, il a un guidon devant, un guidon derrière.
Et oui.
Les deux tournent.
Oui, les deux tournent.
Mon Dieu.
Attends, il y a des vidéos là aussi.
Je suis en train d'imaginer Tomcat qui est en train de regarder le truc qu'il fait. Putain, faut que je l'essaye.
Ouais, non, mais c'est...
Dès qu'il voit des trucs zarbi, c'est... Putain, faut que je l'essaye.
Donc en fait, ouais, il pédale...
Il pédale...
Perpendiculairement au sens...
De
dans lequel il avance.
Ouais.
Et du coup, la roue avant et la roue arrière tournent.
Ce qui lui permet d'être plus maniable.
Ce qui lui permet d'être plus maniable après...
Mais comment ça avance, du coup, si elle tourne?
Bah, il... Il a un pédalier chelou.
Le pédalier est pas exactement à 90% par rapport de 90 degrés
ouais,
par rapport
ouais,
donc la chaîne se prend un peu de torsion mais
non mais il a un renvoi regarde sous le guidon de l'arrière.
Oui, il a
priori, il a un pédalier derrière son pied gauche
qui renvoie son pied arrière, au niveau de la potence
qui renvoie au niveau de la potence arrière
qui redescend,
et qui redescend sur le moyeu ou je sais pas ce qu'il a comme trans. C'est
donc je l'ai croisé 2-3 fois dans Lyon et une fois je me suis arrêté, j'ai discuté 5 minutes avec lui.
D'accord, d'où le fait qu'il t'ait filé
d'où
sa carte.
D'où le fait que j'ai sa carte.
D'accord,
et il le vend ça en fait. Enfin, il essaye.
Je sais pas s'il le vend, je pense qu'il essaye de trouver un constructeur qui serait intéressé par son concept, oui.
Non, parce qu'en plus il est anglais, donc ça veut dire que ça roule à gauche son machin. Le doute m'habite. Je peux pas vous dire mieux,
Voilà. Donc je voulais terminer mon dossier par ce.
Ah, je crois que t'as trouvé la perle parce que en termes de bizarrerie, parce que là en plus
c'est le plus chelou,
on le voit et avec les deux directions, les roues arrivent à ne pas être dans le même plan, c'est-à-dire que le vélo est à moitié en biais, sauf qu'il tourne les guidons et les. Là, c'est, je sais pas. Bon, ça doit avoir un rendement dégueulasse. Hein. C'est vraiment de l'ordre du concept
là,
bike.
Là, c'était il y a quelques mois, c'était au printemps. Où il s'est baladé un peu partout en France avec ça.
D'accord.
Donc il y a des. Je crois que Tomcat l'a croisé à Nantes.
Il a fait des wheelings avec son bordel.
Alors là, j'aimerais voir.
Oh, c'est Tomcat à mon avis.
Il a dû faire des wheelings.
Je pense qu'il fait des wheelings avec une brouette. Donc. C'est extrêmement chelou. C'est pour arriver à gérer l'équilibre en n'étant pas dans le plan du vélo avec les deux directions. Il se démerde bien, hein, parce que
il
fait des espèces de slalom et il tourne en rond autour d'un poteau sur un cercle qui a un tout petit diamètre.
C'est marrant,
ça a l'air
quand tu regardes,
hyper maniable. Hein.
Quand tu regardes, il a deux demi-guidons.
Bah oui.
Mmh.
Oui.
Logique.
Après, techniquement, si t'arrives à rouler vite, le guidon de l'arrière doit suivre.
Oui. Il faut une certaine vitesse quand même.
Ouais.
Non. La roue arrière va balotter.
Ça va balotter, mais normalement, ça va rester
ça
à
va
peu
te faire
près...
perdre de l'équilibre. C'est la raison pour laquelle tu trouveras jamais.
Ah, t'as pas parlé du machin là qu'on voit.
C'est pas un vélo, c'est une draisienne. Une draisienne suspendue.
Pour tout te dire, en fait, il faut savoir que les fourches, elles peuvent avoir
comme
une chasse
quoi.
Positive, une chasse à zéro, une chasse négative. Les chasses négatives, ça donne des roues de caddie et du coup, ça vibre. C'est très très mauvais. Mmh. Les chasses zéro existent. C'est François qui rodrait une cycle, FKC, les cycles, les vélos FKC, qui sont, oui, moi aussi j'ai envie de dire KFC, mais non, c'est pas ça. Il a des vélos avec des fourches à chasse zéro. C'est sa particularité, c'est sa marque de fabrique. C'est des vélos qui ont un comportement qui est assez étrange. Tu peux pas te permettre de lever les mains du cintre, hein. C'est des vélos de route.
Mais
par contre, ils sont très maniables et, voilà, je pense que c'est une curiosité, c'est à tester les FKC.
Ouais. Ah mais fait il y a des photos là
des prototypes plus anciens
voilà,
ouais.
C'est des trucs ouais.
Il a travaillé son plan quoi.
Une magnifique moustache.
Ouais.
Alors la version
le
moderne a des toutes petites roues. Celle-là c'est un peu plus grand déjà, ça doit être du 24 pouces
ouais,
truc
au
comme
moins.
Ça. Mais l'autre, ça a l'air d'être des roues de Brompton en fait,
tu vois la version 2010, c'était des roues de
trottinette.
Ouais. Il y a un truc dont tu as pas parlé. Ce qui peut donner lieu à des vélos vraiment particuliers, c'est les pliants.
Oui.
Parce que là, j'y pense, en voyant le vélo avec des toutes petites roues, etc., je pense au Strida.
Ah oui,
le
Strida et ce genre
que j'ai eu l'occasion de tester. Et c'est vraiment... Alors, même au niveau du comportement à pédaler, c'est vraiment bizarre.
Mmh.
Oui.
Parce que tu as vraiment une direction qui est au bout de tes chaussures. C'est l'extrême contraire du bullet. Et on est très 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 droit dessus. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un vélo qui est gaulé pour la ville, quoi.
Ouais, enfin qui est gaulé pour du kilomètre, quoi.
Pour
Des distances courtes
Pas forcément. Ça, c'est vrai pour les modèles qui sont mono-vitesse, mais il y a des modèles avec des boîtes, des moyeux à vitesse. Et là, potentiellement, tu peux faire de la borne. Ce que tu dis va surtout être vrai pour des gens comme Grincho ou moi, peut-être un peu moins pour toi, c'est parce que les Strida sont quand même des vélos qui sont conçus pour des personnes assez petites.
Ouais.
Et dès que t'es grand, ouais, il faut prendre le modèle supérieur, redresser la selle, tout
d'accord,
ça. Et moi, je sais que j'ai pédalé avec les gens pliés.
Sur le Strida, c'est un vélo pliant en triangle. Qui se...
De profil, ça ressemble à un étendage.
Ouais.
C'est ça.
Mais la selle, la possibilité de réglage de position est super, super limitée.
T'as une vis en fait. Il faut que tu déplaces à certains socles et dans certains cas, il faut te demander un cadre plus grand.
Oui, enfin,
ça c'est
voilà, les possibilités sont quand même limitées.
Ouais, enfin, l'avantage c'est que ça se replie tout petit, que ça prend pas beaucoup
de place.
Ça
fait une canne, ouais.
Voilà, et que c'est pratique à mixer avec des transports, mais je me vois pas faire des trajets pendant
une heure. Après, dans les catégories des pliants, on a tous les Strida, les différentes générations de pliants. Avec les types Daon, les Birdies avec leur fourche parallélogramme, les paratroopers en pliant
de taille normale,
le Montag par exemple,
les Montagu,
voilà. ça c'est du vélo, c'est du VTT véritablement, hein, c'est du vélo de
militaire.
Non mais c'est vrai que le Strida ça reste de loin le pliant le plus arbi. Le Brompton c'est vrai que plié c'est très bizarre, mais une fois qu'il est déplié il est pas plus choquant que ça, il a une drôle de tronche, mais c'est un vélo assez classique. Mais le Strida, c'est vraiment pas commun, quoi.
Ouais, non, c'est clairement.
C'est un monocycle avec une roue avant, quoi. je crois que j'ai trouvé à peu près la définition du Strida. C'est un monocycle avec une roue avant.
Ouais.
Voilà.
Bon, je crois qu'on peut conclure ce dossier.
Ouais. Et puis, je crois qu'on va conclure le podcast.
Ouais.
Voilà. Et ben, ce fut court. Peut-être pas si court que ça.
Ça a été court.
Ça a été court. Bon,
ça fera une moyenne avec ceux qui ont été trop longs.
Voilà. Dans tous les cas, c'était bien agréable.
Et puis normalement, on enregistre le 27 dans pas si longtemps que ça, puisqu'on a retardé le celui-là.
Ouais. Donc on vous tiendra au courant. Et puis écoutez, dans tous les cas, merci de nous avoir écoutés. Merci les gars pour cette soirée.
Merci.
Et puis vous pouvez nous retrouver, n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, vous cherchez Cyclocast,
sur Twitter,
et puis il nous reste toujours la
sur Mastodon, mais je sais plus.
Mastodon,
ça existe encore, ça?
Bien sûr,
il y a des gens dessus.
Oui,
sur Google Plus aussi, hein.
sur Google Plus, c'est que les gens qui jouent à Ingress.
Je connais pas.
C'est un
Pokémon Go mais d'avant, là.
Et qui est fait par une boîte qui a été rachetée par Google. Donc
Les mêmes qu'on fait Pokémon Go. C'est les mêmes algos, c'est Niantic. C'est la même boîte.
D'accord. Moi, je sais pas, j'attends Harry Potter.
Harry Potter Go.
Voilà. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos boîtes mail. Donc,
nous à Cyclocast.
Voilà, nous à Cyclocast. Cast at Cyclocast, Mogor at Cyclocast, Grincheux at Cyclocast, Warthog at Cyclocast.
Exactement.
Cyclocast.
Voilà. Vous n'hésitez pas. On vous dit à bientôt.
Laissez-nous 5 étoiles, il paraît que ça sert à quelque chose.
Ah ouais, d'accord, voilà. Ouais.
On gagne de l'argent, non?
Non.
On gagne des bières?
Non, on
gagne des vélos.
On le dit pas?
On lui a pas dit non.
On lui a pas dit
merde. C'est comme ça que t'as eu un Brompton en fait. Salaud.
Exactement.
Oui,
tout à fait.
J'ai gagné. Gna. Et monsieur, tu roules avec quoi là?
Oui, mais moi je l'ai payé moi. De ma poche.
Bon, on va finir nos bières et notre pinard et puis on va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Allez,
à bientôt.
Bonne soirée, à bientôt.
Salut.
Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo, fais du vélo. du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Toi, contrairement à tous les géants de la route, tu prendras le temps de boire et de casser la croûte. Tu vas pédaler tranquillement, toujours pépère, et découvrir les joies de la vie au grand air. Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Comme un poisson dans l'eau, fais du vélo, fais du vélo.